Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour cette nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va se plonger dans une décision juridique assez monumentale de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue en grande chambre à la mi-mai 2026.
C'est l'affaire C-797-23, pour être précis. Et c'est du lourd, puisque ça oppose directement Meta, donc l'entreprise qui gère nos fils d'actualité au quotidien, à l'AGCOM, qui est l'autorité italienne de régulation des communications.
Avec évidemment le soutien très appuyé des éditeurs de presse italiens en arrière-plan. Mais attention, pour ceux qui nous écoutent, le but ici, c'est pas de vous faire une lecture monotone d'un document juridique hyper dense.
Ah non, on va éviter ça.
Notre mission, c'est de vraiment décrypter la mécanique de cet affrontement. On veut comprendre comment le droit européen tente, avec beaucoup de difficultés, d'équilibrer le pouvoir financier et le monopole des données de la Silicon Valley avec la survie économique des journaux qui informent nos sociétés.
Et c'est un véritable cas d'école sur le contrôle de l'information à l'ère numérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette bataille ne porte pas uniquement sur des indemnités financières. C'est bien plus profond que ça.
Ça touche à la structure même du web.
Voilà. Ça touche à la transparence des boîtes noires algorithmiques. En fait, le contexte de base est assez simple. Les éditeurs de presse voient leurs revenus fondre comme neige au soleil, alors que dans le même temps, leur contenu génère un engagement massif sur les réseaux sociaux.
C'est la fameuse économie de l'attention. L'Europe a bien essayé de rééquilibrer tout ça avec sa directive sur le droit d'auteur de 2019, mais la façon dont l'Italie a choisi d'appliquer cette directive, ça a provoqué une réaction épidermique chez Meta.
Une réaction nucléaire même.
D'accord, décortiquons tout ça. Avant de juger qui a tort ou raison dans cette histoire, il faut vraiment comprendre l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et c'est une loi italienne bien précise.
L'article 43 bis de leur loi sur le droit d'auteur.
Exactement. En gros, le gouvernement italien a instauré une règle qui exige une, je cite, « compensation équitable pour les éditeurs de presse lorsque des fournisseurs de services comme Meta utilisent leurs articles en ligne ».
Et on précise bien qu'on parle ici de l'affichage de véritables extraits d'articles, hein, pas juste d'un lien hypertexte bleu ou de deux mots isolés. On parle du titre, de l'image, de l'accroche.
Ouais, ce qui fait que les gens ne cliquent même plus. Et face à ça, Meta sort immédiatement son bouclier juridique en s'appuyant sur l'article 15 de cette fameuse directive européenne de 2019. Meta affirme haut et fort que la directive accorde aux éditeurs un droit exclusif.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'interprétation de ce terme. Pour Meta, un droit exclusif, c'est le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation d'un contenu. Point barre. Ce n'est en aucun cas un droit automatique à rémunération.
Donc pour l'entreprise technologique, transposer le droit européen en créant un mécanisme de paiement automatique, ça transforme un droit d'auteur classique en une sorte de taxe forcée.
C'est tout à fait ça. Et la Cour de justice vient apporter une nuance vraiment fondamentale ici. Elle qualifie ce droit de nature préventive.
Un droit préventif, d'accord. Qu'est-ce que ça implique concrètement?
Les juges clarifient qu'un État, même avec les meilleures intentions du monde, ne peut pas confisquer à l'éditeur son droit initial de dire non. Il ne s'agit pas de forcer la vente d'une licence. On ne peut pas remplacer le droit de refuser par un simple droit à être payé.
Ah, je vois. C'est un peu comme être propriétaire d'une maison, en fait. Le droit exclusif, c'est le droit de verrouiller la porte chez soi et de choisir librement qui entre. Et Meta dit en gros, la loi européenne dit juste que vous avez les clés. Pas que je dois payer un loyer si j'entre.
C'est une excellente analogie.
Mais la Cour répond, attendez, si vous voulez entrer, le propriétaire a parfaitement le droit d'exiger un loyer avant d'ouvrir la porte, tant qu'on ne vous force pas à louer une maison que vous n'avez pas envie de visiter.
Voilà. L'analogie de la maison, ou même du portfolio d'un photographe, illustre parfaitement l'esprit de l'arrêt. La juridiction européenne insiste lourdement sur le fait que la liberté de proposer son contenu gratuitement ou d'en interdire totalement l'accès doit primer sur tout le reste.
Donc la loi italienne est validée.
Et veuille valider, oui, mais sous une condition incontournable. Il est formellement interdit d'obliger la plateforme à payer pour des contenus qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser.
Ah oui, c'est logique.
La liberté commerciale de la plateforme de refuser d'intégrer ses publications de presse reste totalement intacte. Le robinet financier ne s'ouvre que si la plateforme choisit délibérément d'utiliser le contenu.
D'accord, mais sauf que si on suit cette logique jusqu'au bout, la plateforme dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence absolu. Si Meta refuse de payer, ils peuvent simplement cesser d'afficher les actualités italiennes.
Totalement. Ils l'ont déjà fait ailleurs, d'ailleurs.
Alors, pourquoi mener une bataille juridique aussi féroce jusqu'à la plus haute cour européenne? Enfin, je veux dire, si on possède l'interrupteur pour tout couper, pourquoi s'inquiéter de la facture ?
C'est la vraie question.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la réponse se trouve dans les autres obligations imposées par cette loi italienne. Elle ne se limite pas du tout à fixer un prix, elle s'attaque directement au cœur du réacteur de la Silicon Valley, c'est-à-dire l'algorithme lui-même.
Absolument. Les textes italiens vont extrêmement loin dans leurs exigences opérationnelles. Ils imposent l'ouverture de négociations de bonne foi, ça c'est classique, mais ils obligent aussi la plateforme à partager les données internes nécessaires pour évaluer cette fameuse compensation équitable.
Les fameuses données secrètes.
Et surtout, et c'est là que ça coince pour Meta, la loi interdit à la plateforme de réduire la visibilité des contenus des éditeurs dans ses résultats de recherche ou ses fils d'actualité pendant que les parties négocient.
Attendez, arrêtons-nous sur ce point 2 secondes. Parce que c'est une ingérence étatique vertigineuse dans le fonctionnement d'une entreprise privée.
C'est du jamais vu.
C'est comme si l'État disait à une grande chaîne de supermarchés « Pendant que vous négociez les prix avec les producteurs de confiture, vous avez l'interdiction formelle de déplacer leur pot de l'étagère du milieu vers l'étagère du bas pour faire pression sur eux. » On demande littéralement à une entreprise de geler la mécanique de son propre produit. Comment une obligation pareille peut-elle tenir juridiquement ?
Cela soulève une question importante, c'est vrai. La comparaison avec le supermarché met bien en lumière l'enjeu de la liberté commerciale. Mais la Cour rappelle que l'économie numérique ne fonctionne pas comme le commerce de détail traditionnel. On est sur des dynamiques asymétriques totalement inédites.
Une asymétrie d'information, c'est ça ?
Exactement. Dans un supermarché physique, le producteur de confiture connaît ses coûts de production, il peut estimer les ventes globales du secteur, il a une vision du marché. Dans l'écosystème numérique, la Cour fait le constat implacable que seuls les géants du web détiennent les vraies mesures.
Ils ont le monopole des données.
C'est ça. La symétrie est totale. Meta sait exactement combien d'attention un extrait d'article génère, combien de microsecondes un utilisateur s'y attarde avant de scroller, et surtout, quelles publicités ont été vendues autour de cette fraction d'attention.
Ouais, et ça, c'est la mécanique invisible qui capte notre attention au quotidien. Enfin, un utilisateur n'a même plus besoin de cliquer sur le lien et de visiter le site web du journal. Il lit le titre accrocheur, il regarde l'image générée dans l'aperçu, il met éventuellement un like, puis il continue à faire défiler son écran.
Le fameux zéro clic.
Voilà, la plateforme a capté et monétisé l'engagement de cet utilisateur grâce au travail acharné du journaliste, tandis que l'éditeur, lui, de son côté, il ne voit dans ses statistiques qu'un clic non converti, ou pire, il n'a aucune donnée du tout pour les 95% de personnes qui n'ont fait que lire l'aperçu sur Facebook.
Et c'est exactement le cœur du raisonnement des juges européens. Sans une obligation légale de partager ces données réelles de trafic et d'engagement, la négociation devient une vaste farce.
Une négociation à l'aveugle.
C'est le mot. Les éditeurs avancent dans le noir complet, incapables d'estimer la valeur financière réelle qu'ils apportent à la plateforme. L'objectif déclaré par le droit européen, on le rappelle, c'est de garantir un pluralisme des médias et un journalisme économiquement viable.
Ce qui est la base d'une démocratie quand même.
Bien sûr. Et la Cour estime que si on laisse la plateforme cacher ses métriques internes, et pire, si on la laisse manipuler la visibilité algorithmique comme moyen de pression pour forcer les journaux à accepter les accords au rabais...
Alors là, la protection du droit d'auteur n'est plus qu'une illusion théorique.
C'est exactement ça. La loi devient inutile.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau juridique ? Parce que ça nous amène inévitablement à la grande confrontation des droits fondamentaux. Meta n'a pas manqué de souligner que cette loi, et particulièrement les pouvoirs jugés démesurés qui sont confiés à l'autorité de régulation italienne, la GECOM, ça piétinait la liberté d'entreprise.
Une liberté garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, oui.
Et franchement, quand on regarde de près les prérogatives de cet arbitre public, l'argument de Meta a vraiment de quoi faire réfléchir. L'autorité italienne peut exiger des données hautement confidentielles, elle peut définir unilatéralement les critères de rémunération si les négociations bloquent, et elle peut menacer la plateforme d'une amende allant jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial si elle refuse de coopérer.
Et 1% du chiffre d'affaires de Meta, on parle de sommes astronomiques ?
C'est gigantesque.
Eh bien, la Cour de justice ne balaye pas du tout cet argument d'un revers de la main. Les juges admettent de manière très explicite, dans les points 85 à 102 de l'arrêt, que l'intervention de l'autorité italienne restreint bel et bien la liberté d'entreprise de la plateforme. C'est un fait établi et reconnu.
D'accord, mais alors comment justifie-t-il cette restriction ?
En s'appuyant sur l'article 52 de la Charte. En droit européen, la liberté d'entreprise n'est pas absolue. Elle doit être constamment mise en balance avec d'autres droits fondamentaux.
Ah, la fameuse mise en balance.
Voilà. Ici, les juges placent sur la balance d'un côté la liberté commerciale de Meta et de l'autre la protection de la propriété intellectuelle des créateurs combinée à la liberté et au pluralisme des médias.
C'est fou. C'est comme arbitrer un combat de boxe poids lourd où l'un des deux combattants a les yeux bandés.
C'est une bonne image.
L'intervention de l'arbitre, donc l'AGCOM, pour forcer à retirer le bandeau et menacer de pénalité si on ne joue pas le jeu, ça ne détruit pas le sport en soi. Ça s'assure juste qu'il y a un véritable match et pas un massacre.
C'est tout à fait la logique de l'arrêt.
Mais techniquement parlant, comment ce régulateur procède-t-il ? Parce que fixer le prix unilatéralement, ça signifie qu'une agence gouvernementale va déterminer la valeur financière d'un clic ou de 3 secondes d'attention sur un écran de smartphone. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste à confier l'évaluation monétaire d'un flux algorithmique hyper dynamique à une instance administrative classique, non ? Sur quoi il se base pour ne pas détruire le modèle d'Internet ?
Si nous relions cela à la situation dans son ensemble, c'est pour cette raison précise que la Cour insiste autant sur la proportionnalité des mesures. L'autorité italienne ne fixe pas un tarif arbitraire de manière dictatoriale. Elle intervient comme un ultime recours, une médiation financière de dernier rempart.
Et elle se base sur quoi ?
Obligatoirement sur les données que la loi force la plateforme à révéler. Pour reprendre la logique des marchés financiers, c'est comme exiger qu'une bourse de valeurs rende public son carnet d'ordres. On ne peut pas avoir un marché fonctionnel si un seul acteur voit les offres et les demandes réelles.
Ah oui, c'est la base de la transparence des marchés.
Et pour l'amende géante de 1%?
Les juges estiment qu'elle est proportionnée justement parce qu'elle s'adapte à la surface financière de l'entreprise visée. Ça pique, mais ça ne vise pas l'expropriation ou la faillite de Meta. De plus, la loi prévoit des garde-fous stricts pour protéger le secret des affaires. Les données ne sont pas publiées sur la place publique.
Donc le rôle de l'arbitre, c'est vraiment de retirer le bandeau des yeux de la presse pour s'assurer que les deux parties voient le même contrat avant de signer.
C'est exactement ça. Et l'impact de ce jugement, il dépasse largement les frontières de l'Italie. C'est un signal très clair pour notre audience aujourd'hui. La justice européenne considère désormais que les boîtes noires algorithmiques qui décident de ce qui s'affiche sur nos écrans, ce ne sont plus des sanctuaires intouchables. Le secret des affaires de la Silicon Valley doit céder le pas lorsque le financement de l'information démocratique est en jeu.
Ouais, c'est un changement de paradigme, mais il faut tout de même apporter une nuance essentielle à ce pouvoir d'intervention de l'État. La Cour trace une ligne rouge très nette dans le sable.
Laquelle ?
L'autorité de régulation est là pour garantir la bonne foi et proposer un tarif basé sur des données réelles, c'est acquis. Mais elle n'a en aucun cas le pouvoir de forcer la signature d'un contrat final.
Ah, oui. On en revient au fameux droit de ne pas utiliser le contenu de tout à l'heure.
Voilà, la boucle est bouclée. Si l'évaluation financière du régulateur déplaît fortement à la plateforme, Meta conserve sa souveraineté absolue de refuser l'accord et d'exclure totalement les articles de presse de son réseau. C'est un équilibre extrêmement subtil. On force la transparence des négociations, mais on préserve la liberté totale de rompre ces mêmes négociations.
C'est fascinant. Avant d'évaluer les conséquences globales de ce compromis juridique pour l'avenir, les sources qu'on a analysées révèlent un dernier détail procédural qui illustre vraiment l'intensité de ce combat en coulisses.
Ah oui, la fameuse demande de l'été 2025. C'est un coup de théâtre assez rare.
Ouais. À l'été 2025, alors que l'affaire toucha à sa fin et que l'avocat général de la Cour avait déjà rendu ses conclusions publiques, les avocats de Meta ont tenté une manœuvre vraiment de la dernière chance. Ils ont formellement demandé la réouverture des débats oraux.
Justifier cette requête en affirmant, de manière assez directe d'ailleurs, que les conclusions de l'avocat général démontraient une incompréhension de la dynamique réelle du marché numérique.
Ils ont vraiment osé dire ça ?
Oui, il disait que la Cour n'avait pas compris les processus techniques complexes régissant l'apparition des articles sur les fils d'actualité. En d'autres termes, ils estimaient que les juristes européens étaient dépassés par la technologie et voulaient avoir l'opportunité de leur refaire une présentation technique.
Il y a une certaine audace quand même à se présenter devant la juridiction suprême d'un continent entier pour leur dire « Écoutez, vous n'avez pas compris comment marche notre application, laissez-nous vous refaire un PowerPoint ».
C'est très Silicon Valley comme approche.
Et la réponse de la Grande Chambre a été d'une froideur institutionnelle absolue.
Glaciale. La Cour a opposé un refus catégorique. Et les juges ont saisi cette occasion pour rappeler l'architecture même de la justice européenne. Leur mission, ce n'est pas de mener des audits techniques, ni d'analyser les modèles d'affaires, ni même de vérifier l'effet matériel d'un dossier.
Ça, c'est le travail des juges nationaux, non ?
Exactement. Ce rôle appartient exclusivement au tribunal national du pays d'origine, en l'occurrence, la justice italienne. Le mandat exclusif de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est d'interpréter le droit et les directives à partir du cadre factuel qui lui est soumis.
Le fait qu'une entreprise technologique désapprouve l'analyse de l'avocat général ne constitue en rien motif juridique valable pour relancer toute la procédure.
Moi, je trouve que ce rejet dépasse la simple anecdote de prétoire. C'est l'affirmation abrupte de la souveraineté du droit public sur la puissance technologique privée. Peu importe l'armée d'ingénieurs et de conseillers hyper payés dont dispose une multinationale, la procédure institutionnelle européenne ne se plie pas aux exigences d'une industrie qui voudrait dicter sa propre réalité technique au juge.
C'est un message très fort. Et l'ensemble de cet arrêt constitue indéniablement une victoire majeure pour l'approche européenne de la régulation.
Ça crée un précédent énorme.
Oui, ça valide un arsenal législatif puissant face aux asymétries du marché numérique. Exiger la transparence des revenus, imposer des négociations sous l'égide d'un arbitre public et surtout neutraliser les représailles algorithmiques pendant qu'on discute, ce sont des outils reconnus parfaitement légaux.
Pour protéger le modèle économique de la presse ?
Voilà, face à la toute-puissance de distribution numérique.
La lecture approfondie de ces sources nous confirme donc que le droit européen refuse de laisser la survie de l'information à la seule discrétion des algorithmes. C'est rassurant, d'un côté. Pourtant, en refermant ces dossiers, une incertitude colossale demeure, intimement liée à ce bouton d'arrêt d'urgence dont nous parlions un peu plus tôt.
Le fameux droit préventif de dire non.
Exactement. La Cour a fermement sanctuarisé le droit de la plateforme de ne pas utiliser la presse si elle refuse de payer le tarif fixé. Cela nous laisse avec un scénario d'avenir profondément déstabilisant.
Et qui pourrait tout changer.
La menace constante de pénalités financières qui se chiffrent en milliards. Que se passera-t-il si les grandes entreprises technologiques arrivent simplement à la conclusion que l'actualité est devenue un produit toxique et trop complexe à gérer ?
C'est le scénario catastrophe pour les éditeurs.
S'ils décident du jour au lendemain d'exercer ce droit de retrait, de purger intégralement l'information journalistique de leurs écosystèmes pour s'affranchir de toute contrainte légale, quel sera l'impact sur l'esprit critique d'un public dont la principale fenêtre sur le monde passe par ces mêmes réseaux sociaux ?
On se retrouverait avec des fils d'actualité vides d'informations vérifiées.
La loi aura réussi à protéger les conditions de vente de l'information, ça c'est sûr, mais l'information, elle, aura peut-être disparu des endroits où on la consomme le plus au quotidien. C'est une réflexion vitale sur les conséquences inattendues de la régulation que chacun de nous devra garder à l'esprit dans les années à venir. Merci de m'avoir accompagné pour décrypter ce sujet complexe aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité, c'était une discussion passionnante.